Henri de Lubac est né le 20 février 1896 à Cambrai. Dès l'âge de 17 ans, il entre chez les jésuites. Malgré une blessure à la tête durant la Première Guerre mondiale, il poursuivra son noviciat et sera ordonné prêtre en 1927. Deux ans plus tard, il devient professeur de théologie à la faculté catholique de Lyon. Jusqu'en 1950, le père de Lubac sera professeur et publiera divers livres. Il est notamment l'un des fondateurs, avec le père Danielou, de la collection Sources chrétiennes, qui permet de redécouvrir les pères de l'Église. Son livre « Surnaturel » sera cependant suspecté et on lui demandera, dès 1950, de ne plus enseigner. Quelques années plus tard, c'est Vatican II qui le rétablira. Et il finira notamment par être élevé au cardinalat en 1983. Le père Denis Dupont-Fauville vient de faire paraître un livre intitulé « L'Église mère chez Henri de Lubac ». Il nous présente la pensée du théologien sur l'Église.
Lubac, très souvent, quand il parle de l'Église, il dit « L'Église, c'est ma mère. L'Église, c'est une mère. L'Église est quelqu'un qui a une fonction maternelle. » Donc, il la voit d'abord comme mère. D'une certaine manière, ça pourrait suffire à tout résumer, de dire que l'Église est mère chez Henri de Lubac. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a encore pas dit grand-chose. Il faut comprendre tout ce que ça recouvre. Et Lubac lui-même, dans une conférence qu'il a faite peu avant son cardinalat, suggérait qu'on pouvait reprendre ce qu'il avait écrit sur l'Église à travers ce qu'il appelle des couples dialectiques, c'est-à-dire des termes qui sont apparemment contraires et qui sont en réalité unifiés par ce mystère de l'Église mère. Et les trois grands couples dialectiques qu'il donne, les mots qu'il associe, il y a l'Église qui est de Dieu et des hommes, puisqu'elle est donnée par Dieu mais qu'elle existe dans l'humanité, il y a l'Église visible et invisible, et il y a l'Église temporelle et éternelle, c'est-à-dire que non seulement l'Église nous conduit vers l'éternité, mais aussi elle nous la donne et puis elle demeurera dans l'éternité. Et donc ces trois associations de mots, à chaque fois, sont une manière pour le père de Lubac de déployer ce mystère de l'Église qui est une mère qui nous enfante à la vie de Dieu.
Parmi les livres écrits avant le Concile, il y a le célèbre « Corpus Mysticum », dans lequel le père de Lubac explique l'origine de l'expression « corps mystique », une expression utilisée par le Concile pour décrire l'Église.
Nous, aujourd'hui, quand on dit le corps mystique, on pense à l'Église. Et dans cet ouvrage, en reprenant des textes, notamment du XIIe siècle et du XIIIe siècle, qui sont une période clé pour ce problème, il montre que, à l'origine, quand les chrétiens parlent de corps mystique, ils parlent de l'Eucharistie. Et que comme l'Église se nourrit de l'Eucharistie, reçoit l'Eucharistie, est conformée au Christ par le pouvoir de l'Eucharistie, peu à peu le sens s'est déplacé, c'est-à-dire que ceux qui recevaient le corps mystique de l'Eucharistie devenaient eux-mêmes le corps mystique qui est l'Église. Et donc le corps mystique qui dans un premier temps désignait les espèces consacrées, les hosties de l'Eucharistie, se sont mises à désigner l'Église elle-même et c'est le terme qui est resté. Mais c'est parce que nous recevons la seule réalité mystique qui est le corps du Christ dans l'Eucharistie.
Une autre formule célèbre du père de Lubac est l'expression tirée de son livre « Méditation sur l'Église ». S'il est vrai que l'Église fait l'Eucharistie, il faut aussi reconnaître que l'Eucharistie fait l'Église, dit-il. Le père Dupont-Fauville nous en donne la signification.
Il dit « Attention, dans ces deux phrases, le mot « Église » ne désigne pas la même chose. C'est-à-dire, quand on dit « l'Église fait l'Eucharistie », on songe d'abord aux prêtres, à la hiérarchie, à l'Église comme peuple constitué qui, en officiant sacramentellement dans la messe, fait l'Eucharistie, fait que la consécration a lieu. Et quand on dit l'Eucharistie fait l'Église, c'est le fait que le Christ, se donnant à l'ensemble des baptisés, fait que les chrétiens deviennent capables d'assumer la vie surnaturelle qui est la leur. Et donc, quand on dit l'Eucharistie fait l'Église, c'est de toute l'Église qu'il s'agit. Et on voit que l'Eucharistie n'est pas seulement quelque chose que l'Église fait, que les ministres font, mais c'est la réalité qui se trouve au fondement de toute la vie de l'Église. Ça, c'est typiquement le genre de raisonnement que le père de Lubac aime bien faire.
Cette influence montre clairement que la théologie, avant Vatican II, a changé. Elle s'est adaptée à son époque. On peut dire que c'est déjà un aggiornamento.
Au moment de Vatican II, la théologie classique qu'on enseignait dans les séminaires ou dans les facultés était surtout basée sur saint Thomas d'Aquin et sur une lecture particulière de saint Thomas d'Aquin qui était bien codifiée et parfois un peu étroite, un peu rigide. Et le père de Lubac est arrivé, ayant lu l'ensemble des pères de l'Église, ayant une vision beaucoup plus diversifiée et aussi beaucoup plus ancienne que simplement la théologie médiévale. Il a écrit des ouvrages qui montrait cette richesse incroyable dans des catégories qu'on n'était plus du tout habitué à utiliser. Donc ça, c'était une première révolution. C'est que Il a élargi le champ des sources, il a fait redécouvrir les pères, il a fait sortir des catégories classiques un peu thomistes de l'époque.
Ses recherches sur les documents patristiques ont permis de mettre en avant de nouvelles questions qui ont marqué le clergé et l'Église.
C'était pas uniquement que les sources étaient différentes, mais c'était que les idées qu'il arrivait à exprimer à l'aide de ces sources étaient d'un tel poids qu'elles ont engendré des problématiques nouvelles. Je donne un exemple. Méditation sur l'Église a été publiée à une époque où Lubach était suspecté de faire de la théologie pathomiste. Il commençait à avoir des ennuis au sein de la Compagnie de Jésus dont il était membre. Il avait certains ouvrages qui commençaient à être à l'index, il était interdit de publication. Enfin, il y a eu une période vraiment très difficile et très douloureuse. Et voilà que certains évêques, et notamment Mgr Montini, qui était à l'époque patriarche de Venise et qui allait devenir Paul VI, eh bien, a fait distribuer à tout son clergé méditation sur l'Église en disant « Si vous voulez méditer sur l'Église et comprendre théologiquement le mystère de l'Église, vous devez lire ce livre. » Donc une influence diffuse et en même temps très profonde sur tout un ensemble de penseurs, de théologiens, de prêtres. Et puis, il a été appelé par Jean XXIII et puis maintenu par Paul VI pour être un expert au Concile Vatican II, dès les travaux de la commission préparatoire.
Si dans les documents du Concile, on ne trouve pas directement la trace du père de Lubach, à l'inverse d'autres théologiens, on se rend compte que les études de ce jésuite ont fortement influencé, cependant, comme un courant de pensée, la mise au point des constitutions conciliaires.
Comme c'est un homme qui est très cultivé et qui est très subtil, donc qui toujours corrige ce qu'il vient de dire par autre chose, on ne peut pas dire qu'il y a un thème massif qu'il a absolument pilonné et qu'on retrouve tel quel dans les documents. C'est une série d'images, une série de mots, une série de thèmes qui donnent une espèce de sensibilité globale. Et alors, plus on entre dans cette œuvre considérable, eh bien, plus on connaît ça, plus on se rend compte à quel point il a imprégné plusieurs des documents du Concile.